toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Le premier produit Apple de 2025 est disponible. Alors non, il ne s'agit pas du très attendu iPhone SE 4, mais des PowerBeats Pro 2. Ne soyez pas déçus, ces écouteurs destinés aux sportifs sont très intéressants dans leur domaine. Est-ce qu'ils font battre notre cœur avec leur capteur de fréquence cardiaque intégré? On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, Apple permet une opération inespérée pour ses anciens utilisateurs, l'application Apple TV arrive finalement sur Android et on débriefe le sommet sur l'IA qui s'est tenu à Paris. Nous sommes le samedi 15 février, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer. Ça y est, l'année 2025 d'Apple est lancée. Son premier produit est disponible depuis quelques jours et Tim Cook a annoncé un autre produit à venir la semaine prochaine. Salut Christophe, ça va ?
Bonjour Stéphane, oui ça va bien. Tiens d'ailleurs, je voulais te demander, t'as des recommandations pour un bon smartphone Android ? Non mais parce que je peux switcher maintenant que l'app TV est dispo sur le Play Store.
Bah écoute, les Pixels, hein, ils sont très bien, ils sont beaucoup moins chers que les iPhones. Pour en revenir à Apple, tu penses qu'Apple nous réserve quoi pour la semaine prochaine ?
Oh bah c'est l'heure de l'iPhone SE, d'ailleurs c'est intéressant, enfin du nouvel iPhone SE, c'est intéressant qu'Apple tease à ce point-là ce nouveau modèle. D'ailleurs, Tim Cook parle d'un nouveau membre dans la famille, cela laisse à penser qu'il ne s'appellera peut-être pas justement iPhone SE. En tout cas, si Apple met des bouchées doubles, je pense qu'elle espère que son nouvel appareil va très bien se vendre et relancer ses ventes de smartphones, notamment en Europe où, suite à la législation sur les appareils USB-C, il n'y a pas d'entrée de gamme et de milieu de gamme.
C'est sûr, oui. Mais le premier produit Apple de l'année, il est déjà disponible et en fait, c'est un produit Beats. La filiale d'Apple a lancé cette semaine les PowerBeats Pro 2. Des écouteurs haut de gamme pensés pour les sportifs. On remercie au passage Beats de nous avoir fourni en avance une paire pour qu'on puisse publier notre test au moment du lancement. On aimerait bien pouvoir faire pareil avec les iPhones, soit dit en passant. Enfin bref, c'est Florian qui les a testés et ma foi, il en est plutôt content. Alors par rapport aux PowerBeats Pro de première génération qui était sorti en 2019, il y a de vraies améliorations au niveau de la réduction de bruit active, de la qualité sonore et du confort. Et les PowerBeats Pro 2 se distinguent aussi par la présence d'un capteur de fréquence cardiaque intégré. Alors, cette nouveauté, par contre, n'est pas totalement convaincante. En gros, si vous avez une Apple Watch, ce capteur n'apportera rien. Et si vous n'avez pas de montre, seulement 10 apps, même moins de 10, savent en tirer parti à l'heure actuelle. Christophe, je sais que tu utilises beaucoup d'accessoires connectés quand tu fais du sport. Est-ce que les nouveaux écouteurs de Beats t'intéressent ?
Alors, j'ai longtemps utilisé les PowerBeats Pro de première génération, et d'ailleurs mon fils les utilise encore, même si leur autonomie se limite maintenant à 30 minutes. Mais attention, ce modèle, enfin celui que j'ai, je l'ai depuis 2019 et on est en 2025. C'est d'ailleurs l'avantage d'avoir des écouteurs qui de base ont une excellente autonomie, et ben ils durent plus longtemps. J'ai eu des AirPods que j'ai achetés après qui sont devenus beaucoup plus rapidement inutilisables à cause justement de l'autonomie. Alors les PowerBeats, en plus, c'est des écouteurs solides et résistants. Un jour, justement, mon grand a égaré le boîtier près de la maison. On les a cherchés partout, mais il neigeait. On les a retrouvés genre une semaine après, quand la neige avait fondu, et ils marchaient toujours nickel. Bon, maintenant que j'ai fini de raconter ma vie, il y a quand même un chiffre qui est assez fou, je trouve, et que Beats a donné lors de la présentation de ce nouveau modèle, c'est qu'ils ont quand même vendu 30 millions de PowerBeats Pro. C'est quand même assez fou, quoi. Ouais. Pour un modèle qui a été mis en avant à certains moments, mais pas plus que ça non plus. Alors, ça permet vraiment d'illustrer la domination à la fois d'Apple et de Beats sur le marché des écouteurs. Alors, pour en revenir aux PowerBeats Pro 2, comme tu disais, ce sont vraiment des écouteurs pensés pour le sport et plus particulièrement pour le fitness. C'est dans une salle de sport qu'ils sont le plus agréable à utiliser. Le seul souci, j'ai envie de dire, c'est à la fois un défaut et une qualité, c'est que c'est quand même, ce type de produit a quand même la tendance à t'isoler des autres. Hein. Quand tu portes des PowerBeats, les gens vont pas forcément venir vers toi pour parler. Enfin, ils voient que t'as quand même, quelque chose, enfin des gros écouteurs sur l'oreille, donc voilà, ça coupe un peu la communication. Sinon, Beats, ça semble-t-il régler les principaux défauts du premier modèle, notamment le boîtier qui était beaucoup trop gros.
Il reste encore gros sur celui-ci, mais c'est un peu mieux, ouais.
Ouais, mais on peut les imaginer les mains dans une poche. Les autres, c'est impensable. Et en termes de fonctionnalités, bah, ils sont plus ou moins enfin au niveau des AirPods Pro. Alors, comme tu disais, moi, mon seul point d'interrogation, c'est la gestion de la fréquence cardiaque que je trouve assez bizarre. Je comprends pas pourquoi les éditeurs doivent adapter leur app pour la prendre en charge, alors que normalement, bah, tu pourrais, en théorie, pairer tes écouteurs comme cardio-fréquence-mètre en Bluetooth avec n'importe quel autre appareil. C'est ce qui semble d'ailleurs se faire avec les tapis de course, notamment. Enfin bref, je trouve ça assez mystérieux. Et voilà, et c'est d'autant plus dommage pour les possesseurs d'Apple Watch. Moi, je m'attendais à ce qu'elles puissent prendre le relais quand le cardio-fréquence-mètre de l'Apple Watch est en difficulté. Cela aurait été d'ailleurs très pratique pour des gens qui portent de gros tatouages. En tout cas, bah, ça nous donne envie d'être très rapidement à la fin de l'année pour voir à quoi ressembleront les nouveaux AirPods Pro.
Et puis on peut espérer aussi peut-être des mises à jour logicielles du côté des PowerBeats Pro 2 pour améliorer justement la gestion du capteur de fréquence cardiaque, hein.
Oui, alors peut-être effectivement qu'Apple n'a pas tout dit parce que bon, les PowerBeats Pro s'adressent quand même beaucoup aux utilisateurs Android. Et voilà, peut-être qu'Apple, effectivement, enfin, parce que certes, on a appris que Beats vendait beaucoup de PowerBeats Pro 2, mais Apple vend encore plus d'AirPods Pro. Donc c'est là où peut-être que s'il y a des. Enfin, Apple n'a peut-être pas voulu, effectivement, dévoiler tout son jeu dès maintenant.
On va passer à un autre sujet. Apple a annoncé une nouveauté qui était devenue inespérée pour certains utilisateurs. Alors, il devient possible de transférer ses achats d'applications, de musique et d'autres contenus dématérialisés d'un compte Apple vers un autre. Alors, malheureusement, ce n'est pas encore possible dans l'Union européenne et quelques autres pays, mais on peut maintenant espérer que ça arrive un jour chez nous. C'est vraiment quelque chose qui était attendu depuis des années et des années par certains utilisateurs. Rien qu'à MacG, je sais que notre développeur web Cédric en parlait encore récemment. Mais dans quel cas on peut vouloir transférer ses achats d'un compte Apple vers un autre? Parce que ça concerne pas tout le monde.
Bah, il faut remplir un formulaire CERFA très très long et croiser les doigts.
Non, heureusement c'est pas ça.
Non, mais ça y ressemble presque. Hein. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'astérix. Hein. C'est un peu comme quand
Oui.
tu lis un contrat d'assurance. Hein. Oui, c'est potentiellement pratique, mais il y a beaucoup de si, comme on le disait. Alors, j'en ai noté quelques-uns. Ces deux comptes doivent être tout d'abord configurés dans le même pays. Alors, le compte secondaire, celui qui servait à faire les achats et qui transférera ses données au compte primaire, ne doit pas être lié à une famille iCloud et servir dans le cadre d'un partage d'achat. Si c'est le cas, il faudra au préalable le retirer de la famille et désactiver le partage. Cela ne marche pas également avec les précommandes et le compte secondaire ne doit pas avoir du crédit App Store restant. Voilà. Alors, en cas d'erreur, Apple propose une procédure d'annulation du transfert. Il n'y a pas de délai pour demander l'annulation. En revanche, la pomme prévient que cela bloquera toute possibilité de transfert par la suite pendant une période d'un an. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte, mais voilà, ça peut être très sympa.
Oui, ça va aider les. En fait, ça concerne les anciens utilisateurs, ceux qui avaient ouvert au temps de MobileMe un compte et puis qui avaient fait un second compte pour l'App Store. Et donc, ces anciens utilisateurs-là se retrouvaient des fois avec deux comptes différents, un compte iCloud et un compte App Store. Et là, voilà, ils vont pouvoir en quelque sorte fusionner, en tout cas transférer leurs achats sur un seul compte, ce qui simplifiera leur gestion de leur compte Apple.
Ce qui est marrant, c'est que de l'extérieur, ça paraît très simple, mais je suis persuadé que derrière, ça doit être une machinerie, mais
Ça va être assez
usine
compliqué.
à gaz d'usine à gaz.
Alors après Apple Invitation la semaine dernière, Apple a lancé encore une nouvelle application. Pas la peine de vous précipiter sur l'App Store pour la télécharger. Il s'agit d'une application Android. C'est l'application Apple TV qui a été portée sur la plateforme de Google. Elle donne accès à Apple TV+, au MLS Season Pass, et puis ben c'est tout. On ne retrouve pas ses achats iTunes dessus. Il existait depuis des années une app Apple TV sur Android TV, mais pas sur Android tout court, ce qui paraît un peu bizarre parce qu'il y a quand même beaucoup plus de smartphones Android en circulation que de box Android TV. Pourquoi il a fallu tant de temps à Apple pour lancer son app TV sur les smartphones Android?
Mais c'est une bonne question, ça. Tu te
Bah,
souviens
Apple a donné une petite réponse.
Oui. Tu te souviens de la phrase de Steve Jobs qui disait qu'il n'avait pas envie de faire plaisir aux utilisateurs d'Android? Je crois que ça concernait un portage de l'iTunes Music Store sur Android il y a Il y a déjà fort longtemps.
Je m'en souviens, mais ça fait très longtemps, oui. C'est
voilà, peut-être que Tim Cook, voilà, enfin, j'en sais rien. Non, mais effectivement, c'est d'autant plus étonnant que l'application TV a été portée sur un nombre incalculable d'appareils.
Ouais. D'ailleurs,
moi, j'ai... Voilà, ouais. Moi, j'ai un petit jeu, c'est quand je ne suis pas chez moi que j'allume un téléviseur. Voilà, mon premier réflexe consiste à voir si l'application TV est installée dessus. Et je suis très, très souvent surpris parce qu'elle est effectivement présente. Alors, la petite musique officielle veut nous faire croire qu'Apple se lance enfin sur Android parce qu'elle pense avoir désormais un catalogue solide. On n'est pas obligé de les croire. Hein. Non, mais la stratégie autour de TV de son service associé a toujours été brouillonne. Alors, pour en revenir à TV+, je veux bien admettre qu'il y ait quelques séries de qualité, il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'ai quand même l'impression que le service d'Apple laisse totalement indifférent. Alors, je ne vais pas me répéter, mais j'ai toujours pensé qu'Apple a opté pour la mauvaise stratégie depuis le début. Elle aurait dû être un agrégateur de contenu, passer des deals pour avoir des portions de catalogue des principales plateformes, et éventuellement, cerise le gâteau, proposer quelques productions maison, histoire de faire un peu de promo. Mais pour intéresser d'autres personnes que sa clientèle habituelle, elle a déjà fait, à mon avis, une première erreur. Elle n'aurait pas dû appeler son service TV+, mais elle aurait dû utiliser la marque Beats avec Beats TV et Beats TV+. Je pense que ça aurait été plus inclusif.
Ah ouais, Beats, moi, ça reste quand même associé au sport, à la culture urbaine. J'ai du mal à voir un service vidéo Beats TV+, quoi. En tout cas, avec le contenu qu'il y a actuellement, ça me paraîtrait un peu bizarre.
Et tu sais qu'à la base, ils avaient quand même un service de streaming. Hein, que,
oui,
qu'Apple
bien sûr, Beats Music, enfin, oui, qui est devenu Apple Music.
Donc, Beats TV, pourquoi pas. Hein.
Ouais, ouais. On va terminer le tour de l'actu avec un petit débrief du sommet sur l'IA qui s'est tenu à Paris en début de semaine. Cet événement a été l'occasion pour les dirigeants français et européens d'annoncer plein de chiffres mirobolants. Emmanuel Macron a promis 109 milliards d'euros d'investissements privés pour la France. Et Ursula von der Leyen veut mobiliser 200 milliards d'euros d'argent public et privé à l'échelle du continent. Avec tout cet argent, il est en particulier question de financer d'immenses centres de données qui entraîneront de nouveaux modèles d'intelligence artificielle. Alors l'événement a rassemblé des représentants de nombreux pays, ainsi que des grands groupes comme Google, OpenAI, Meta, mais pas Apple. Apple n'était pas là du tout. Est-ce que ça veut dire qu'Apple ne compte pas du tout dans l'intelligence artificielle, Christophe?
J'ai l'impression tout d'abord que l'exercice de communication a été assez réussi. Les sommes annoncées sont assez impressionnantes. Après, comme toujours, il faut se méfier des effets d'annonce et voir effectivement ce qui sera investi dans les années à venir.
C'est beaucoup de promesses pour l'instant, oui. Hein.
Voilà. J'ai entendu Xavier Niel, qui est optimiste, comme d'habitude, et voilà, qui vantait la qualité de l'écosystème français et européen. En tout cas, cela arrive à un moment très intéressant. DeepSeek a vraiment rabattu les cartes et donne le sentiment que la supériorité des États-Unis dans le domaine de l'IA n'est pas une fatalité. Alors oui, concernant Apple, c'est vrai que... Mais depuis le début, hein, ce n'est pas forcément spécifique à cette histoire de sommet en Europe. Apple donne l'impression d'être à la traîne. Et Apple fait quand même beaucoup d'efforts pour elle publier beaucoup de...
De recherche.
De travaux de recherche. Elle est relativement transparente par rapport à ce qu'elle fait dans d'autres domaines. Là, par exemple, dans la robotique, elle a montré, c'était la semaine dernière, un projet de lampe intelligente avec lequel on pourrait communiquer. Mais voilà, quelque part, c'est un peu comme TV+, on a l'impression qu'elle n'est pas totalement prise au sérieux. Alors, je sais pas, pourtant, elle a quand même un certain nombre... elle a des puces, par exemple. Enfin, tous ses produits sont dotés de Neural Engine depuis des années et des années. Mais je me demande peut-être finalement ce qui dessert Apple, c'est qu'elle utilise finalement ces technologies, elles ne sont pas ouvertes, dans le sens où elles sont vouées à être utilisées uniquement dans ses produits. Alors c'est peut-être ça qui dessert un peu Apple, contrairement à Google ou OpenAI, où là c'est vraiment ouvert, hein, c'est pour une utilisation, enfin pour tout le monde, j'ai envie de dire.
Eh bien écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. À la semaine prochaine et bon week-end.
Bon week-end à tous.
Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Sortie de Veille avec peut-être un iPhone SE 4 au sommaire, on l'espère en tout cas. Passez un bon week-end. Salut à tous.